Comment ? Vous y comprenez quelque chose ? À la fin, Louise d'Ernemont, qui après le débat s'était posée en conciliatrice, réussit à apaiser le tumulte. On s'assit de nouveau, mais il y eut une réaction chez tous ces gens exaspérés, et ils demeurèrent immobiles et taciturnes, comme harassés de fatigue. Et du temps s'écoula. Impatienté et commençant à souffrir de la faim, j'allai chercher jusqu'à la rue Raynouard quelques provisions, que nous partageâmes tout en surveillant les acteurs de la comédie incompréhensible qui se jouait sous nos yeux. Chaque minute semblait les accabler d'une tristesse croissante, et ils prenaient des attitudes découragées, courbaient le dos de plus en plus et s'absorbaient dans leur méditation. « Vont-ils coucher là ?» prononçai-je avec ennui. Mais vers 5 heures, le gros monsieur à la jaquette malpropre tira sa montre. On l'imita, et tous, leur montre à la main, ils parurent attendre avec anxiété un événement qui devait avoir pour eux une importance considérable. L'événement ne se produisit pas, car au bout de 15 à 20 minutes, le gros monsieur eut un geste de désespoir, se leva et mit son chapeau. Alors des lamentations retentirent. Les deux sœurs maigres et la femme de l'ouvrier se jetèrent à genoux et firent le signe de la croix. La demoiselle au petit chien et la mendiante s'embrassèrent en sanglotant, et nous surprîmes Louise d'Ernemont qui serrait sa fille contre elle d'un mouvement triste. « Allons-nous-en, » dit Lupin. « Vous croyez que la séance est finie ?»« Oui, et nous n'avons que le temps de filer. » Nous partîmes sans encombre. Au haut de la rue Raynouard, Lupin tourna sur sa gauche et, me laissant dehors, entra dans la première maison, celle qui dominait l'enclos. Après avoir conversé quelques instants avec le concierge, il me rejoignit et nous arrêtâmes une automobile. « Rue de Turin, 34 !» dit-il au chauffeur. Au 34 de cette rue, le rez-de-chaussée était occupé par une étude de notaire. Et presque aussitôt, nous fûmes introduits dans le cabinet de Maître Valandier, homme d'un certain âge, affable et souriant. Lupin se présenta sous le nom du capitaine en retraite Janniot. Il voulait se faire bâtir une maison selon ses goûts, et on lui avait parlé d'un terrain sis auprès de la rue Raynouard.
« Mais ce terrain n'est pas à vendre !» s'écria Maître Valandier.
« Ah, on m'avait dit... »«
Nullement, nullement !»
Le notaire se leva et prit dans son armoire un objet qu'il nous montra. Je fus confondu. C'était le même tableau que j'avais acheté, le même tableau qui se trouvait chez Louise d'Ernemont.
« Il s'agit du terrain que représente cette toile, le d'Ernemont, comme on l'appelle. »«
Précisément. »«
Eh bien, ce clos faisait partie d'un grand jardin que possédait le fermier général d'Ernemont, exécuté sous la terreur. Tout ce qui pouvait être vendu, les héritiers le vendirent peu à peu. Mais ce dernier morceau est resté et restera dans l'indivision, à moins que...
« À moins que ?» interrogea Lupin.
« Oh, c'est toute une histoire assez curieuse d'ailleurs, et dont je m'amuse quelquefois à parcourir le dossier volumineux. »«
Est-il indiscret ?»«
Pas du tout !»
déclara Maître Valandier, qui semblait ravi au contraire de placer son récit. Et sans se faire prier, il commença.
« Dès le début de la Révolution, » Louis Agrippa d'Ernemont, sous prétexte de rejoindre sa femme qui vivait à Genève avec leur fille Pauline, ferma son hôtel du Faubourg Saint-Germain, congédia ses domestiques et vint s'installer ainsi que son fils Charles dans sa petite maison de Passy où personne ne le connaissait, qu'une vieille servante dévouée. Il y resta caché durant 3 ans et il pouvait espérer que sa retraite ne serait pas découverte lorsqu'un jour, après déjeuner, comme il faisait sa sieste, la vieille servante entra précipitamment dans sa chambre. Elle avait aperçu, au bout de la rue, une patrouille d'hommes armés qui semblait se diriger vers la maison. Louis d'Ernemont s'apprêta vivement, et à l'instant où les hommes frappaient, disparut par la porte qui donnait sur le jardin, en criant à son fils d'une voix effarée
« Retiens-les, 5 minutes seulement !»
Voulait-il s'enfuir? Trouva-t-il garder les issues du jardin? 7 ou 8 minutes plus tard, il revenait, répondait très calmement aux questions et ne faisait aucune difficulté pour suivre les hommes. Son fils Charles, bien qu'il n'eût que 18 ans, fut également emmené.
Et cela se passait?
Cela se passait le 26 germinal en 2, c'est-à-dire le...
Maître Valandier s'interrompit, les yeux tournés vers le calendrier qui pendait au mur. Et il s'écria
« Mais c'est justement aujourd'hui. Nous sommes le 15 avril, jour anniversaire de l'arrestation du fermier général. »
Coïncidence bizarre. Et cette arrestation eut sans doute, étant donné l'époque, des suites graves.
Oh, fort grave. 3 mois après, au début de Thermidor, le fermier général montait sur l'échafaud. On oublia son fils Charles en prison et leurs biens furent confisqués.
Des biens immenses, n'est-ce pas?
Et voilà, voilà précisément où les choses se compliquent. Ces biens qui, en effet, étaient immenses, demeurèrent introuvables. On constata que l'hôtel du Faubourg Saint-Germain avait été, avant la Révolution, vendu à un Anglais, ainsi que tous les châteaux et terres de province, ainsi que tous les bijoux, valeurs et collections du fermier général. La Convention, puis le Directoire, ordonnèrent des enquêtes minutieuses. Elles n'aboutirent à aucun résultat. Il restait tout au moins la maison de Passy. La maison de Passy fut achetée à vil prix par le délégué même de la commune qui avait arrêté Dernemont, le citoyen Broquet. Le citoyen Broquet s'y enferma, barricada les portes, fortifia les murs, et lorsque Charles Dernemont, enfin libéré, se présenta, il le reçut à coups de fusil. Charles intenta des procès, les perdit, promit de grosses sommes. Le citoyen Broquet fut intraitable. Il avait acheté la maison, il la garda. Et il l'eut gardée jusqu'à sa mort, si Charles n'avait obtenu l'appui de Bonaparte. Le 12 février 1803, le citoyen Broquet vida les lieux. Mais la joie de Charles fut si grande, et sans doute son cerveau avait été bouleversé si violemment par toutes ces épreuves, que, en arrivant au seuil de la maison enfin reconquise, avant même d'ouvrir la porte, il se mit à danser et à chanter. Il était fou.
Bigre. Et que devint-il?
Sa mère et sa sœur Pauline, laquelle avait fini par se marier à Genève avec un de ses cousins, étant mortes toutes deux, la vieille servante prit soin de lui et ils vécurent ensemble dans la maison de Passy. Les années se passèrent sans événements notables, mais soudain, en 1812, un coup de théâtre. À son lit de mort, devant 2 témoins qu'elle appela, la vieille servante fit d'étranges révélations. Elle déclara que, au début de la Révolution, le fermier général avait transporté dans sa maison de Passy des sacs remplis d'or et d'argent, et que ces sacs avaient disparu quelques jours avant l'arrestation. D'après des confidences antérieures de Charles Dernemont, qui les tenait de son père, les trésors se trouvaient cachés dans le jardin, entre la rotonde, le cadran solaire et le puits. Comme preuve, elle montra 3 tableaux, ou plutôt, car ils n'étaient pas encadrés, 3 toiles que le fermier général avait peintes durant sa captivité et qu'il avait réussi à lui faire passer avec l'ordre de les remettre à sa femme, à son fils et à sa fille. Tenté par l'appât des richesses, Charles et la vieille bonne avaient gardé le silence. Puis étaient venus les procès, la conquête de la maison, la folie de Charles, les recherches personnelles et inutiles de la servante, et les trésors étaient toujours là.
Et ils y sont encore, ricana Lupin.
Et ils y sont toujours, à moins que le citoyen Broquet, qui sans doute avait flairé quelque chose, ne les ait dénichés. Hypothèse peu probable, car le citoyen Broquet mourut dans la misère.
Alors?
Alors on chercha. Les enfants de Pauline, la sœur, accoururent de Genève. on découvrit que Charles s'était marié clandestinement et qu'il avait des fils. Tous ses héritiers se mirent à la besogne.
Mais Charles...
Charles vivait dans la retraite la plus absolue. Il ne quittait pas sa chambre.
Jamais ?
Si, et c'est là vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire, de prodigieux dans l'aventure. Une fois l'an, Charles d'Ernemont, mu par une sorte de volonté inconsciente, descendait, suivait exactement le chemin que son père avait suivi, traversait le jardin et s'asseyait tantôt sur les marches de la rotonde, dont vous voyez ici le dessin, tantôt sur la margelle de ce puits. À 5h27, il se levait et rentrait. Et jusqu'à sa mort, survenue en 1820, il ne manqua pas une seule fois cet incompréhensible pèlerinage. Or, ce jour-là, c'était le 15 avril, jour de l'anniversaire de l'arrestation.
Maître Valandier ne souriait plus, troublé lui-même par la déconcertante histoire qu'il nous racontait. Après un instant de réflexion, Lupin demanda « Et depuis la mort de Charles ?»«
Depuis cette époque, » reprit le notaire
avec une certaine solennité,
« depuis bientôt 100 ans, les héritiers de Charles et de Pauline d'Ernemont continuent le pèlerinage du 15 avril. Les premières années, des fouilles minutieuses furent pratiquées. Pas un pouce du jardin que l'on ne scruta. » Pas une motte de terre que l'on ne retourna. Maintenant, c'est fini. À peine si l'on cherche. À peine si de temps à autre, sans motif, on soulève une pierre ou l'on explore le puits. Non, il s'assoit sur les marches de la rotonde comme le pauvre fou et comme lui attendent. Et voyez-vous, c'est la tristesse de leur destinée. Depuis 100 ans, tous ceux qui se sont succédés, les fils après les pères, tous ils ont perdu, comment dirais-je, le ressort de la vie. Ils n'ont plus de courage, plus d'initiative. Ils attendent le 15 avril. Et lorsque le 15 avril est arrivé, ils attendent qu'un miracle se produise. Tous, la misère a fini par les vaincre. Mes prédécesseurs et moi, peu à peu, nous avons vendu... D'abord la maison, pour en construire une autre de rapport plus fructueux, et ensuite des parcelles du jardin et d'autres parcelles. Mais ce coin-là, ils aimeraient mieux mourir que de l'aliéner. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Aussi bien Louise d'Ernemont, l'héritière directe de Pauline, que les mendiants, les ouvriers, le valet de chambre, la danseuse de cirque, etc., qui représentent ce malheureux Charles.
Un nouveau silence. Et Lupin reprit « Votre opinion, maître Valandier ?»«
Mon opinion est qu'il n'y a rien. Quel crédit accorder au dire d'une vieille bonne affaiblie par l'âge ? Quelle importance attachée aux lubies d'un fou ? En outre, si le fermier général avait réalisé sa fortune, ne croyez-vous point que cette fortune se serait trouvée ? Dans un espace restreint comme celui-là, on cache un papier, un joyau, non pas des trésors.